Alors, je vous présente aujourd'hui, donc, pour cette dernière conférence, Michel de Guy. C'est un, je dirais que je le définirais comme un philosophe, un écrivain et encore plus un poète. Hein. Ça ne veut pas dire que ce soit moins un philosophe, mais c'est aussi une grande voix poétique. Nous avons eu Yves Bonnefoy comme voix poétique. Nous avons Michel de Guy. Je crois que nous avons ainsi rendu hommage à ce que la poésie en France a de plus fort. Michel de Guy est né en 1930. Il a été professeur de philosophie en lycée, d'agrégé de philosophie. Puis ensuite, il a été de 68 à 99 professeur à l'université Paris 8, Vincennes d'abord et Saint-Denis ensuite, dont il est professeur émérite maintenant. Il a été longtemps membre du comité de lecture de chez Gallimard, où il a travaillé. Et puis, il est maintenant membre de directeur de la revue Poésie, une revue très importante pour faire connaître la poésie et de langue française et à l'étranger depuis de très nombreuses années maintenant, 25, 30 ans peut-être.
Oui, presque 25.
Presque 25 ans, une revue qui est Pau avec une esperlette, Aisy, publiée aux éditions Belin. Il a été aussi président du Collège international de philosophie de la Maison des écrivains. En 89, il a eu le Grand Prix national de poésie, le prix de la Société des gens de lettres de poésie en 2000. Mais l'important, c'est quand même de citer ses écrits. De toute manière, vous pouvez en trouver l'essentiel en livre de poche, Poésie, Gallimard. Hein, c'est facile à trouver. Je veux dire, là, vous aurez ça. Mais je cite Fragments du cadastre, 1960. Poème de la Presqu'île, 61. Bief, 1964. Jumelage, 1978. Des essais aussi. À ce qui ne finit pas, au seuil, en 96, Gisant, Gallimard, 99, et puis des essais aussi, Tombeau de Dubellay, en 73, La machine matrimoniale ou Marivaux, en 82, La poésie n'est pas seule, en 87, L'énergie du désespoir, PUF, 98, et puis tout récemment, la critique était dans Le Monde cette semaine, La raison poétique, parue chez Galilée, en l'an 2000, je lui ai dit qu'il avait carte blanche. Il a choisi de nous parler de l'attachement. Il va nous en parler. Merci.
Mesdames, messieurs, la poésie fait-elle partie de tous les savoirs? Est-elle si peu que ce soit un savoir? Que sait-elle? Dans la ronde du voir, du croire et du savoir, elle est un faire-voir dont le savoir-faire et la réflexion sur soi n'ont pas les caractères de la connaissance scientifique. Son savoir n'est pas de science certaine ni de science scientifique. Sans doute ne peut-elle pas ne pas comporter et emporter avec soi dans sa tradition un savoir de soi. La poésie sait ce qu'elle fait. Et depuis Aristote, sa poétique la suit comme son ombre, ou parfois la précède comme sa proie. Mais ce savoir peut être tenu pour second par rapport à l'élan qui la lance vers son dehors éternel, selon les mots de Maurice Blanchot. Sous le nom d'attachement, j'examine ce privilège de son extase vers les choses, de son amour du monde, de la terre, de cet élan que les poètes appelaient imagination et les linguistes plus calmement mouvement référentiel. Que peut la poésie? L'inquiétude de cette interrogation croît, on dirait, avec le noircissement des temps à la fin du siècle, aujourd'hui même, il paraît, cette obscurité des dark times, selon l'expression fameuse et déjà ancienne d'Anna Arendt, qui tient aussi à un obscurantisme antilittéraire et plus généralement anti-intellectuel. Et la littérature, cette pensée en langue naturelle, au cœur de laquelle la poésie parle en poème, se demande si elle est encore capable de lumière et de révélation, pluriel, à défaut de révélation. Noirceur du temps, ai-je repris. De parricide en fratricide, de suicide en génocide, d'oxyde en ethnocide, l'humanité en est arrivée au géocide. Un géocide est en cours. Mais il ne pourra pas y en avoir plusieurs. La Terre est donc unique. Il n'y en a pas d'autre. En attendant que des planètes d'autres systèmes fassent signe ou répondent. La Terre n'est donc pas seulement une planète. Elle est un monde et la pluralité de mondes faisait son monde. Elle est une, d'une unicité qui unifie la diversité comme la sienne. Elle est le divers s'unifiant en se diversifiant. Elle est l'entièreté du divers, intégrale, c'est-à-dire telle que chaque partie, découpée après coup par l'ingénium dans le tissu dit naturel, est intégrante. Si son tout, qui n'est rien d'à part, n'a pas d'autre existence que cette intégration de voisinage des parties de proche en proche et de loin en loin, sur la Terre comme au ciel. D'où peut-elle être vue ainsi la Terre ? D'où peut-il être vu ainsi le visible ? Vue du ciel, de l'espace, la Terre vue du ciel. Et j'évoque la fascination cet été pour l'exposition des vues de cette vue par le photographe Yann Arthus Bertrand. Se montre, la Terre vue du ciel se montre, sous l'aspect de et en tant que cette diversité universelle, versari ad unum, le devenir un de ce qui se diversifie sans cesse, de coexister en comparaissant, versatilité versicolore au ciel comme sur la terre. Le regard qui la voit se montrer telle, unidiverse, intègre, cosmique, dans le vieux sens où le cosmos était beau d'être comme une chevelure, ne vient pas du fond de l'univers astrophysique qui est trop éloigné, mais depuis le satellite sublunaire, d'où sa splendeur, tournant sur elle-même, montre les paysages versatiles passant les uns dans les autres. La Terre tourne, s'offrant à cette vue qui n'est pas de Sirius, mais quasi divine, au sens du jeune philosophe Philippe Verstraeten, dont j'ai publié un très beau texte, La splendeur de la Terre, précisément, dans la revue Poésie. La Terre est imageante pour le monde. Je ne dirais pas, comme certains commentaires de l'exposition que j'ai évoquée, que la Terre est l'art. Le visible est attachant, et la Terre notre attache, où s'éprend l'étonnant attachement qui s'étonne, naissance grecque de la pensée, de sa beauté thaumaturgique. Pour ce regard sans pesanteur, au ciel comme sur la Terre, disons pour ce regard détaché, l'attachement s'exalte sublimement. Or, il faut y aller voir pour nous y attacher et nous l'attacher. À cette hauteur, c'est la science qui fait la longue échelle. Cette vue, à laquelle nous continuons de réserver le nom de poétique, est montée sur ou rendue possible par la technique. C'est cette vue que ne purent s'empêcher de prendre les cosmonautes qui en croyaient leurs yeux, voyant, comme le Yahweh de la Genèse, que c'était beau. Or, l'attachement endure une diplopie moderne, le strabisme d'un regard poétique sur la Terre des hommes et d'un autre regard sur l'objet planète scientifique. La position de savoir poétique, à distance consciente de la connaissance scientifique, trouve sa contenance dans une pudeur socratique qui sait qu'elle ne sait pas. Ce non-savoir qui a rapport au rien, je sais que je ne sais rien, n'est ni une ignorance ignare, ni un scepticisme trivial, ni un nihilisme nanti de néant tardif. Le vieux mot de Sophos, qu'il nous fallait traduire jadis dans les classes par « sage savant », tient en réserve une disposition qui, pour n'être pas de science, apparente la poésie et la philosophie. J'ai prononcé « diplopie ». Et la notion ici oscille entre le trouble, voire double, et le don de double vue. Il y a deux vues distinctes et bientôt séparées, celle de Pierrot ou de Schoenberg, qui voit la Lune sur les toits ou sur les tuiles de la mer, et celle de l'astrophysicien monoculaire, qui voit non pas même un astre mort, ce qui serait encore anthropomorphe, mais de la lave et des atomes de silicium. Un œil sur la Lune et un œil sur le doigt qui la montre, c'est la bonne formule post-taoïste. La Lune est cette chose phénomène dans notre littérature, depuis l'errante nocturne de Parménide, ce miroir éteint de l'homme, et phénomène-objet, pour l'observatoire astronomique, puis astrophysicien. Faire voir le terrestre sous cet aspect de tous ces aspects n'est pas l'objet des sciences qui sont, nous dit le philosophe, les ontologies régionales. Le faire voir de la singularité terrestre est la tâche de l'art. Hölderlin disait « Les poètes rassemblent la beauté de la Terre ». Le rassemblement des semblances terrestres, cette rassemblance est inachevable, bien sûr, et chacune, qui est un artefact ou une fiction, confine avec d'autres, moirure et diaprure, sous le vent de regard et les risées du vent solaire qui fait se lever la Terre. Augustin Berck, dans un beau livre récent, Écoumène, publié chez Belin, écrit « Notre appréhension des choses participe au déploiement d'un monde. Les anciens appelaient ce déploiement le poème du monde. Si l'œuvre humaine a un rôle dans le poème du monde, un rôle nécessaire, elle perd tout sens lorsqu'elle prétend s'en détacher. » Fin de citation. Appelons poésie le soin ou art qui soigne cet attachement. La culture est ce qui le cultive. Je parlerai de ce qui les menace. Menace, oui. Si de l'obscurantisme ai-je risqué, c'est tant, c'est qu'il ne voit pas ce qui est à voir, c'est qu'il n'envisage pas la menace. Il faut s'interroger sur cet aveuglement narcissique, médusé par sa propre image dite humaine. C'est peut-être l'image qui est devenue médusante, l'image iconique qui fait écran, en occultant ce que les poétiques ont appelé « image » qui tient en rapprochement de mots, c'est-à-dire en matière logique, depuis que le monde est monde, c'est-à-dire pensé et dit monde dans les langues et leur littérature. Le ressort, le procédé principal de la littérature ou pensée qui se figure, et j'étendrai volontiers cette généralité préliminaire à l'art en général, qui se figure les grands figurants de ce que Mallarmé appelait l'estampe originelle, ce ressort, dis-je, est de prosopopée, si nous donnons à ce terme toute sa signification étymologique. Tout l'art, en effet, est d'envisager le menaçant, et la prosopopée donne un visage à ce qui n'en a pas, ni ne peut en avoir, mais est comme un visage. La tâche, et je l'entends dans l'attachement qui s'attable, la tâche, disait le poète, est de donner à voir, de figurer dans l'avoir l'air, dans le c'est comme ça. J'ai risqué naguère l'axiome, c'est comme si c'était comme ça. L'intelligible n'est pas phénoménal, disait Kant, mais nous savons que toute définition procède d'une description, comme le couteau sans manche et sans lame, c'est-à-dire le concept empirique, procède du couteau qui coupe. Autrement dit, le sens est astreint à de la visibilité et réciproquement, le sens est transparent. Faire transparaître, faire un exemple, c'est la tâche de la littérature, au risque, nous le savons aussi, d'idolâtrer une entité, risque de superstition en général qui est hypotypose et personnification. Si nous appelons témoignage, j'y reviendrai, le geste artiste de rapporter sa vision des choses, voyance si vous préférez, pour faire voir, alors nous comprenons pourquoi Baudelaire commence son poème par les phares qui sont l'appel à témoins, de grands témoins. Le fond de l'affaire peut seulement être dit en poème, de langue, de musique, de peinture, de pierre, parce que c'est tout un poème. Quel est le fond de l'affaire? Je le nomme aujourd'hui attachement. C'est le jouir, si vous voulez, et je consens à recourir à ce beau vieux mot spinozien. Il s'agit bien de gaudere, de gaudium, dont le complément jadis était Dieu. Rappelons-nous les dernières lignes du livre 5, pardonnez-moi cette petite chose en latin, deinde quo mens hoc amore divino, ce beatudine magis gaudet eo plus intelligit. Mais nous, nous autres, de quoi avons-nous ou désirons-nous avoir jouissance et réjouissance? C'est l'énigme. Dieu n'en est plus le corréla, quant à l'objet sexuel qui hante l'imagination aujourd'hui, quand nous parlons de la jouissance, c'en est la métaphore, peut-être pas la seule. Et quand la métonymie, les parties, se prend pour la métaphore, il y a risque de confusion dans le symbolique. Quel est ce jouir et de quelle chose jouit-il? C'est ce que je cherche. Sans doute, la bonne vieille locution « jouir de la vie » le dit-elle, mais il faut la faire parler. « La vie est belle », dit la chanson « J'aime la vie ». La vie est ce qui jouit de la vie ou de l'existence. Qu'est-ce que la vie? Comment l'existence se détache-t-elle de la vie? Zoologie, biologie, science de la vie, qui en retrace l'évolution, ne nous disent pas que cet amour de la vie que nous éprouvons était nécessaire à la vie, ni que le savoir de la vie ajoute à la vie sa valeur. C'est le hasard, tous les cas selon Mono, qui produit cette liberté qui supplémente la vie, et c'est alors la réflexivité dans la passivité qui entame la scission. Voici que la vie donnée et reçue est équivalemment infligée, nous dit Chateaubriand. Oui, il peut y avoir savoir de la vie sans amour de la vie, mais où ira-t-elle si ce n'est pas l'amour qui la dirige ? La jouissance s'est sécularisée au point d'en être arrivée historiquement à la revendication individuelle d'une sorte de droit de jouir sans aucune peine de toutes les commodités de la terre, pour reprendre les mots du discours cartésien. Dans cette formulation, on perçoit encore une sorte d'ultime écho de la théologie d'un paradis dont Adam, sans faute, cueillait les fruits. S'y exprime maintenant l'injonction historiale de la consommation qui commande de profiter des fruits de la technoscience. La question est alors, existe-t-il une autre jouissance, une autre possibilité de jouir, et quelle contre-jouissance non consommatoire, étrangère à ou ennemie de la consommation, entretient encore par l'art et la littérature une demande? Demande qui empêche ou empêcherait par là même que leur production, comme on dit, se confonde avec celle de biens culturels consommables, même si leurs œuvres ne peuvent pas ne pas apparaître sur le marché sous cette forme. Comme si une sorte de valeur d'usage demeurait sans équivalent, sans contrepartie dans l'échange, ou encore comme si toutes les fins n'étaient pas entièrement convertissables ou convertibles en moyens. Chimère. Je suspends au moment d'y pénétrer la progression dans le labyrinthe spéculatif avec ses boucles, ses impasses, ses retournements où nous entraîne l'attachement pour une auscultation terminologique. Choses, mots et notions s'entretiennent, nous le savions avant la linguistique, et c'est cette complexe interdépendance qui permet l'expérience en pensée qui est une réflexion dans l'élément du langage et de la représentation en l'absence de ce dont nous parlons, autrement dit, par l'imagination. Consultons un instant le lexique du lien que mon titre invoque, l'attachement, le détachement, l'attache. L'attachement nommait ni ne contrecarre le détachement. Sa prédominance de protagoniste dans ma mise en scène ne réduit pas le détachement au rôle de confident. À vrai dire, les choses eussent pu être placées sous l'éclairage du détachement, puisque c'est une même chose. L'attachement, dont l'emploi est souvent de litote, en particulier dans le discours amoureux, se conjugue au détachement, je dirais, comporte le détachement. Celui-ci prend recul et, mesurant l'étendue de la perte, embrasse l'attachement profond, comme on l'appelle, à l'être et à son monde. Il y a là un battement ou rythme, pareil au rythme de la catharsis, d'avancée-recul, s'il est vrai que la pitié s'avance et se penche sur, tandis que l'horreur ou l'effroi reculent. Dans sa retenue, le détachement, par ce retrait que marque le mouvement de son dé, son coup de dé, si j'ose, gagne le point où il se confond avec la hauteur sublime, celle Périhupsus de Longin pour entrevoir le lieu de ce monde. Certes, attaché de toutes les manières à chaque fois, par amour, par obligation et par contrainte, je ne parlerai pas ici de la contrefaçon des Tartuffes feignant le détachement, dévot à l'égard des biens de ce monde, nous sommes cependant autres qu'à la tâche, et par l'arrachement, nous mesurons ce à quoi nous ne pouvons pas nous arracher, ce qui n'en finit pas de se révéler et de nous retenir. L'Ulysse d'Homère est nostalgique, nous le connaissons attaché à Ithaque. Celui de Dante est sans retour, et s'il quitte tout, s'il quitte le chemin qui attache le lieu à un autre, nous dit le dictionnaire, il ne quitte pas le monde que Corneille appellera cet amas de merveilles, ni l'énigme du virement de l'être au compte du monde. Nous le préférons, ce monde, à tout autre, c'est son privilège. Il nous faut y aller sans retour, c'est la tâche. Et nous accepterions la mort pourvu qu'il nous restât un œil vivant, expression de Jean-Jacques Rousseau, une vue de fantôme sur ici-bas depuis l'outre-tombe. Éthologique, nous le sommes, ainsi que l'affirma Héraclite, ethos, anthropo, daimon, disant que pour l'homme, c'était son habitation qui était son daimon, mais pas à la façon de la bête sédentaire, et nous ne traduisons pas ethos par terrier. Nous en sommes même venus à le traduire par éthique, attaché plutôt à son ouverture à l'infini. Cette hospitalité nous lie. En version contemporaine, je cite Derechef Augustin Berck, l'écoumène, oikoumene, c'est l'ensemble et la condition des milieux humains en ce qu'ils ont proprement d'humain, mais non moins d'écologique et de physique. L'écoumène est pleinement la demeure de l'être, de l'humain. Autorisez-moi une sorte de commentaire fantaisiste de la parataxe héraclitéenne, soit l'homme d'une part et son milieu de l'autre, son séjour terrestre démonique, pour nous le climat ou intempérie, ou si vous préférez, les dieux. C'est comme ça qu'il a vécu, soumis aux grands monstres qui plissent les cieux, la terre, les eaux, Poséidon, Apollon, Héphaïstos, Éole, soleil, volcan, abysse, les dieux, c'est ce que nous appelons la météo. Or, c'est ce qui résiste encore à la technoscience, son dernier objet inobjectivable au sens de l'objectivité scientifique et de la méthode expérimentale. Tous les fourmillements complexes, les grands nombres, les deux infinis de Pascal ont été maîtrisés ou paraissent connaissables, maîtrisables, neurones ou nébuleuses, génome ou démographie, mais deux populations de multiples sont encore indomptables, intraitables et affrontées, les sociétés humaines en nations et les dieux météorologiques. Étrange. Or, ce qui est contrariant, en particulier pour la littérature, c'est que quand ce que Dominique Janicot appelle la puissance du rationnel aura réduit cette dernière irrationalité, nous aurons perdu le bruit et la fureur et le mystère, le monde des dieux et des hommes, le monde de Turner, de Wagner, de Schoenberg. Le désir qui parle dans l'attachement n'est pas de possession. Peut-être même est-ce l'épreuve de la dépossession qui conduit à l'attachement. Être à n'est pas un vœu de propriétaire. Le corrélat qui correspond à ce désir d'attachement, son à quoi, allégué souvent ici en tant que le terrestre, s'il a les caractères de ce qui se dérobe avec et dans le détachement et se retire et ne consiste pas dans telle ou telle propriété, n'en est pas moins le persistant pour une expérience aussi parménidienne qu'héraclitéenne de ce que la pensée grecque a nommé l'être. Le fol désir, s'il n'y a pas de désir sans la folie de son aimantation à l'impossible, est celui d'un non-changement, d'une demeurance, peut-être de ce que recouvre le mot « paix », non pas d'une immobilité pesante, mais d'une stabilité parménidienne ou, pour prendre une référence moderne, de l'ataraxie splendide d'une beauté baudelairienne. Je dis « une » parce qu'il y en a deux. Désir du même et que ce qui attache demeure. Mais qu'est-ce que le même ? une chose pour paraître bien elle-même, vraiment comme on dit, a à être changée en elle-même, a même son altération, si l'on peut dire, à la manière dont une péricope fameuse de l'Évangile raconte que le « demeurons ensemble » est condition de la transfiguration, transfiguration de l'ici en ici même et du maintenant en son éternisation, selon les mots de Goethe. « Ôtez toute chose que j'y vois », dit une ligne de Valérie. Si le logbook de M. Test était une poétique, il se fût exclamé « Laissez toute chose que j'y vois », comme un tableau tourne vers nous la constance de ses traits pour notre considération, que rien ne change et qu'ainsi le rien transparaisse, le rien qui parle dans l'expression française, rien que cela. Lettre A de l'attachement, je l'illustre d'une petite vignette, c'est plutôt une ingression qu'une digression. C'est une Robinsonnade, mais d'aujourd'hui. Le naufrage d'Outis Ulysse y est celui de tout baigneur touriste. L'attachement s'y raconte, des eaux profondes à la terre profonde, antérieure à l'appropriation, au droit de, épreuve du dénuement. Quand, nageant vers le rivage, je reprends pied comme Ulysse ou Robinson sur le bord de la terre, aux commissures salées des deux éléments. C'est n'importe où sur la terre, dans le monde, Taïpi, ou cet été en Sardaigne, l'an passé au Brésil, 500 ans après. Ce n'est pas en premier occupant que j'atterris, homme nu et neuf, fils de Deucalion, à égalité avec les hommes peu vêtus qui s'y baignent, ceux d'ici. Nul affrontement avec les autochtones dépouillés, les jeunes phéaciennes ne sont pas des douaniers. Nous sommes ensemble, rescapés, accueillis, le temps de l'éclair où rayonnent les éléments, la terre est à tous. Ou plutôt, ce n'est pas la terre qui est à tous également, c'est chacun en tant que outis, personne qui est à terre. Pour en revenir à l'expérience phénoménologiquement fondatrice, en un monde d'un droit pour chacun de se situer où il veut, en deçà de toute convoitise s'appropriant, je mets en cette scène primitive le moment de l'attachement mis à nu par ses hôtes mêmes, par rapport à quoi le moment du droit est second. Mais qu'est-ce que voir ? Savoir, croire et voir entretiennent des rapports délicats que nos jeux de langage nous aident à distinguer. Permettez-moi d'en mentionner quelques-uns. Le croire demande à voir pour se changer en savoir, et il peut arriver que le savoir n'en croit pas ses yeux quand il voit. Son désirer voir est irrésistible. Et nous lisons que Thomas l'incrédule obtint satisfaction et non pas punition. Qu'est-ce que ce voir qui est promis même aux aveugles et qui sert d'analogone à saint Paul pour dire la jouissance suprême, car alors nous verrons face à face ? Ou qui permet à Rimbaud de marquer la différence du poète comme celui du voir au croire voir, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Étonnant tournoiement du croire avec le voir, du savoir avec le croire et le voir. Le croire oscille du savoir au voir. Ainsi, puisque je ne me verrai pas mort, j'ai fâcheuse tendance, tout en le sachant, à ne pas le croire, à moins que ce soit, tout en le croyant, à ne pas le savoir, et peut-être de là à imaginer du non-mortel. Le savoir anticipe. C'est pourquoi apprendre est possible. Il anticipe sur le voir pour à la fin peut-être croire, cette fois selon un autre mode du croire, au sens de l'intime conviction qui parfois débouche sur l'erreur, comme nous l'apprend et nous le donne à savoir telle cause judiciaire. Je m'attarde un instant chez Socrate. Il y a un premier usage de la figure socratique qui sert à humilier la prétention de savoir. Ainsi, pour ne pas quitter le domaine de mes exemples, Ion, l'herméneute, croit-il savoir, et Socrate le harcèle-t-il pour l'arracher à son assurance ? Savant en Homère, il l'est peut-être, mais ne sachant pas répondre à la question « qu'est-ce que la poésie ?» Ion n'entend pas la question ontologique. Ce stade est trivial, en tout cas devenu trivial, parce que nous avons mieux compris Socrate et appris que Ion n'avait pas le beau rôle. Le rapport socratique au savoir nous arrache au croire savoir. Nous ne croyons plus savoir. Mais je dirais avec brutalité, d'une certaine manière, la question n'est plus là. Socrate n'a pas rencontré Faust, et s'il l'avait rencontré, ça ne se serait pas passé si facilement. Faust a signé un pacte avec le diable pour triompher de la mort, ou disons avec Descartes, pour s'exempter de tous les maux possibles par la science en tant que technique. Or, ce n'est pas la science qui nous tire de nos illusions, puisque plus elle nous décentre, Copernic, Einstein, Freud, plus nous acquérons de puissance, de sorte qu'on croit que la science nous promet l'omnipotence, même si la science elle-même ne promet rien, et que c'est un autre principe qui transforme les progrès scientifiques en promesses. Autrement dit, la science n'est pas le savoir, quand bien même un usage verbal de savoir et de savoir au pluriel subordonne celui-ci et ceci à la science. C'est pourquoi je reviens à la philosophie de l'attachement et à la difficile diplopie et à l'entrelac complexe des significations que traque dans notre langue cette possibilité d'agencer deux de ces verbes l'un sur l'autre dans des locutions telles que croire voir, croire savoir ou savoir voir, savoir croire. Et peut-être devrais-je dire que je reviens à l'hésitation en intercalant une remarque qui souligne le motif sous-jacent à toutes mes remarques. Hésitation est le fréquentatif de l'attachement, en latin de errere, H-A-E-R-E-R-E. Être attaché et hésiter, c'est le même. L'attachement hésite et s'attache à l'hésitation dans l'hésitation. Hésiter, c'est hésiter entre. L'hésitation est ce qui compose avec deux extrêmes adverses, deux pôles où se dispose la vérité contrariée, contrariante, déchirée, déchirante, dirait peut-être Rainer Schurmann. Brièvement, la vérité est paradoxale et la bifurcation où hésite l'Hercule philosophe moderne n'est plus celle du vice et de la vertu, mais celle des complémentaires antinomiques où se disjoint une vérité elle-même provisoire, historique. Retour donc à l'hésitation prolongée. L'expression est de Paul Valéry et elle atteint en un éclair le cœur battant de l'exercice de poésie. Entre savoir, croire et voir, cet espace d'hésitation, de croisement, d'interversion, de dédoublement, c'est celui du témoignage. L'attestation en l'absence de la chose dont il s'agit relie le voir au savoir par le croire. J'ai vu, dit l'un, et vous devez savoir, croyez-m'en. Afférons-nous autour du témoin, dans cette conjoncture la nôtre, où l'essence et la portée du témoignage donnent lieu, dans toutes les directions, en toute instance, aux plus vives controverses, aux débats et aux combats les plus vifs, sur une scène, locale et mondiale, où mille jugements derniers arrivent à échéance, où il n'est question que de dialogue et de procès, et où la parole, accusation, défense, les paroles et la parole des uns contre les autres, de tout un contre tout autre, par tous les moyens de communication, dans l'éther de la mise en réseau, se font écouter. Je ne vais pas disserter, ni même bavarder, de mémoire et histoire, selon l'intitulé majeur du débat en cours, parce que ce n'est pas mon propos. Mais resserrer ma problématique d'un tour avec le fil qui est venu quand je m'interrogeais sur les relations de la littérature au savoir, le fil du témoignage. J'ai fait entrer le témoin en scène, je vais le questionner davantage, admis que la poésie est une affaire de témoignage, pourquoi je n'ai pas même besoin de remettre mon propos sous l'invocation de Paul Celan. La question est, de quoi témoignent la poésie et ses poètes ? Peut-on croire leur témoignage ? Que savent-ils, eux, dans un temps où la confiance a beaucoup diminué à l'égard de la littérature et de l'art en général ? Je monnaie aussitôt cette question en une flopée d'autres. Étrange nœud gordien de questions et d'hypothèses malaisément vérifiables, séquence singulière, à moitié fable, à moitié postulat. Mais il s'agit de propositions à la fois logiques et érotiques, comme ce terme de proposition l'indique, qui énonce du possible et du désirable et dont l'énonciation est consciente que, comme toute proposition, celles-ci peuvent être refusées. proposition énigmatique parce qu'elle croit répondre aux énigmes du sphinx sur notre route. Petit a, qu'est-ce que le témoin ? Réponse, celui qui a vu le monstre de près. C'est une quasi-citation de Primo Levi. Petit b, nous savons ce qui nous attend, nous devons voir le monstre de plus près. Petit c, mais Persée ne vint plus la Gorgone, le mythe dit qu'il ne devait pas, lui, l'envisager sous peine de pétrification. D, mais voici qu'aujourd'hui, et ce serait une façon de faire la différence entre mythe et histoire, il renonce à sa victoire, mythique comme toutes les victoires, et soutient son regard. E, nul Andromède de rêve pour récompense, il s'agit d'identifier Méduse, ou si l'on préfère, qu'elle est le monstrueux. Je pensais donc à ce point citer à la barre un témoin capital, un témoin d'aujourd'hui, Primo Levi. Je ne le fais ici que par une allusion très rapide, posant qu'il conviendra de méditer longuement cette expérience singulière sous l'angle suivant. Quelles relations entretiennent la vision de l'art et les vues de la science ? D'un côté, l'appréhension humaine, de l'autre, le progrès sans moratoire de la maîtrise scientifique inhumaine. Comment assumer la diplopie schizophrénisante parvenue au paroxysme, par exemple aujourd'hui, sur la scène où s'affrontent l'humaniste et l'expérimentateur de clonage. Primo Levi est un écrivain et il sait que la recherche est le principe fatal, le souverain inéluctable, le destin de l'humanité. Pourquoi Primo Levi peut-il nous aider ? Parce qu'il subit une mutation extraordinaire. De scientifique, il devint écrivain à la faveur, si on peut dire, de l'expérience infernale dont il fut le sujet, le témoin, le résultat survivant d'Auschwitz. Son intelligence scientifique et savante devint littéraire, métamorphose qu'il réfléchit dans son miroir parlant. Je fais allusion aux souvenirs et aux fables que l'édition française a rassemblés dans Le fabricant de miroirs en 1986. Il traverse la barrière des espèces en portant du côté de l'art, de la littérature, son regard et son savoir-faire scientifique. Le savant devient écrivain. L'écrivain n'oublie rien, écrivant plutôt ceci, je cite, « Je n'ai pas oublié mes 30 années de militantisme dans la chimie mineure et mon musée personnel n'est pas mental mais matériel. Science et littérature passent l'une dans l'autre. C'est ce point de passage qu'il faudra mieux repérer, point fixe, archimédique, mais non pas hors monde, plutôt à la fois de ce monde, celui des hommes, et de l'univers en celui-ci, physique. Donc, la littérature est engagée, repartons de là. Il s'agit de savoir, disait Sartre, quel aspect du monde celui qui écrit veut changer. La formule de littérature engagée est plus énigmatique que le terme d'engagement le suggère d'abord. Nous savons que chaque génération s'engage d'une manière qui lui aura été plus obscure qu'elle ne le crut, à la fois inévitable et opaque, comme une passion qui la préempte d'abord avant de la périmer. Il s'agit de savoir quel aspect du monde celui qui écrit veut changer. Réponse, peut-être est-ce ma réponse, celui qui ne change pas. Ou sous forme de question, y a-t-il de l'inchangeable ? Y a-t-il du résistant, du ça résiste aujourd'hui ? Au nom de quoi seulement il serait possible de résister ? Qu'est-ce qui résiste ? À quoi nous serions attachés ? Je ne suis pas en train de dire que le poème et la poésie ne doivent pas changer. Ce qui arrive au poème, peut-être même on pourrait dire ce qui arrive à poème, en modifie la contenance, il peut perdre contenance. La proposition de la poésie est-elle une vraie proposition, comme la politique parfois et la religieuse, ou une provocation, si j'entends par là quelque chose qui ne peut être reçu comme une proposition générale, comme une vraie bifurcation pour l'anthropomorphose, à la façon dont, par exemple, nous pouvons nous demander si la proposition surréaliste était une vraie proposition. Alors aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, me semble-t-il, c'est le fait qu'une toute autre révolution que la poétique, changer de vie, et la politique changer la vie, à savoir la révolution scientifico-technique, qu'on l'appelle métonymiquement informatique, électronique, biotique, aura été la révolution du XXe siècle. Beaucoup plus nombreux que les artistes originaux sont les généticiens et autres agents de la transformation du corps humain, y inclut les financiers et les entrepreneurs qui coopèrent en faisant monde. À cette saisie de l'humanité imprévisible il y a une génération et qui la menace d'une sûre ou déshumanisation difficile à penser, que pouvons-nous faire, ou plutôt redire, au nom de l'attachement ? Faire monde, ce n'est pas refaire le monde. Quoi d'autre qu'une certaine alliance à la recherche d'un alliage avec la pensée et la science de ce qu'Augustin Berque appelle l'écoumène et qu'on peut appeler ici écologie pour un monde non immonde. L'engagement prend à témoin. Dans le témoignage, il y a une réciprocité en cause de part et d'autre de ce qu'il y a, il y a témoin. Ou le témoin prend à témoin. Or, comme dans la vie, tout le monde se dérobe. Je ne veux pas être pris à témoin. Pourquoi ? Pourquoi cette faible approbation ou cette indifférence pour le témoin qui prend à témoin ? Le témoin cherche, en alertant, en admonestant des passants, des ombres, à créer la situation de témoignage, le site objectif. Appel à témoin, mais on passe. Écoutez, mais ce que j'essaye de mettre sous les yeux n'est rien de visible. L'audible n'est pas le visible. Avec la même immédiateté, le témoin est celui qui est cru et qui n'est pas cru, incrédible. Et l'autre témoin, l'appeler, admonesté, crédule et incrédule. Il ne désire pas entrer dans la chaîne du croire, ça ne passe pas. D'où la tâche de l'artiste, qui est une formule que j'ai empruntée et un peu modifiée à Samuel Weber, comment rendre ineffaçable ce qui est incroyable ou qui est devenu incroyable. Dans quoi donc s'engager ? Sans doute pour tous y va-t-il du monde et du mondial, mais l'homonymie là comme ailleurs fait problème. Entre worldwide dans une publicité et Weltlich en philosophie allemande passe la différence. Que peut donc signifier pour nous, à notre place d'écrivain, de poète, lutter avec, c'est-à-dire contre, la mondialisation. Le mondial, au sens devenu prégnant, s'entend par exemple dans l'expression « le mondial du foot », qui est même le mondial. Le monde, en tant que tout le monde uniformisé par la communication et l'information, en bref, l'écran, et l'imposition de quelques goûts par la publicité mondiale, le monde screenisé donc, se rassemble virtuellement autour du stade de la finale. Pourquoi est-ce que ça ne suffirait pas à faire un monde ? Qu'est-ce qui s'oppose à la dite mondialisation ? Au fond, l'attachement vise une continuité, une stabilité, une lourdeur d'histoire, pour emprunter à Braudel, une paix et donc une préservation renouvelante, celle de l'existence humaine dans le silence de la vie terrestre, que toute révolution angoisse, et que celle-ci, la nôtre, technicienne et cybernéticienne, menace. Et j'essaye de résumer ainsi les deux objections principales que cette angoisse élève. La pluralité, jadis et naguère, de mondes, pluriel donc, entre eux indifférents ou voisinant peu, sauvegardait la Terre sans que ces mondes s'en souciassent. C'est l'advenir d'un seul monde qui la menace. Pourront-ils, la Terre et le monde, s'aimer, se réunir, s'indiviser, ou le monde, pour finir, nous déterrestrera-t-il ? 2. Peut-être n'est-il pas possible que l'humain, dans son anthropomorphose, puisse survivre sans la croyance religieuse en un au-delà. On peut imaginer que mainte autorité religieuse, pas très content de ce terme, le savent, mais ne peuvent parler la vérité d'un langage de fiction affectant les dogmes en général d'un comme-si. Peut-être donc tout ce qui passera de l'autre côté de la croyance, après la fin de la croyance, après les dieux, si je puis me permettre, puisqu'il y a plusieurs religions et qu'ainsi le religieux est un royaume divisé contre lui-même à l'heure de la mondialisation, ce ne sera plus l'homme. Compte tenu du fait que par elle-même, la poésie ne peut rien dans ce monde, c'est-à-dire rien d'autre que de transformer ça et là quelques esprits et partant inspirer quelques actions et entreprises, en quoi peut consister une résistance, ce motif que nous voyons affleurer aux pages finales de livres récents, signés de François Proust ou de Jacques Derrida, de Lyotard ou de Deleuze, et que je reprends ici avec insistance. Nous disions, la poésie montre. Elle va donc montrer quoi ? Elle va dire que le monde dont elle parle, celui que des poèmes, des œuvres, aident à transparaître dans une modalité atténuée de l'être, en être comme ou être avec ce monde préposé à l'être, ne peut être occultée par le mondialisé marchand. Elle cherche à reprendre celui-là à celui-ci, doucement. Et j'évoque ici les motifs heideggeriens de la rigoureuse douceur et du laisser-être, sans intégrisme réactif, sans retour à agressif. Et ici, je dois l'avouer, j'hésite à nouveau, car à peine ai-je prononcé la douceur, et même cité volontiers le passage où Rimbaud, tout à coup en pleine illumination, dit « douceur, douceur ». Voici que j'entends en mémoire l'autre voix de la littérature, la violente, celle qui proteste que la poésie fait mal, celle qui affronte le contraire de la révélation, à savoir l'occultation, la nuit du monde, les dark times, la refermeture, la stupidité qui ne voit plus rien, privée de toute lumière. L'obscurantiste passion de l'ignorance, expression de Lacan, je me rappelle très près de nous l'invective du regretté Gilles Châtelet, penseur géomètre, avait des accents donc évangéliques contre la bande de porcs possédés, ruant à l'abîme. La remontrance du monde, à nouveau frais, c'est frais poétique précisément, selon des formalités dont je ne parle pas ce matin, je peux chercher à en dire une orientation. Si le mondialisé est caractérisé par l'uniformisation, la conformisation aux images des produits, alors l'autre inclination vers l'autre monde toujours là, amondialisable peut-être, dont le pareil a lui-même la mêmeté, relève des comparaisons, c'est-à-dire de la logique du poème, cette inclination est attirée par la diversité abyssale, à diversifier, la purification, l'inaccessibilité. Par exemple, l'autre soir, le spectacle télévisé, oui, c'est un spectacle et télévisé, mais l'important n'est-il pas ce que la parole fait dire au spectacle, ce que le discours et l'entretien arrachent au spectacle, que celui-ci soit actuellement perçu ou à l'écran. La vue, dis-je, une fois encore la terre vue du ciel, d'un omphalos d'eau verte à 6000 mètres en cordillère andine, un œil d'eau morne, disait Rimbaud, entouré d'hommes épuisés par l'effort de monter voir ce biotop, aussi étymologique que scientifique, il y avait les deux regards, celui du savant et technicien, avec celui du poète athlète. Le monde est ce qui n'en finit pas de se révéler à une logie, L-O-G-I-E, je prends ça comme ça à la fin de phénoménologie, c'est-à-dire toutes les logies. Le monde est ce qui n'en finit pas de se révéler à une logie. Son hostilité de monde résisterait toujours pour la vue écologico-poétique. Que si la mondialisation va dans le sens de la mise à disposition immédiate de tout produit, la poésie va dans l'autre sens, à contresens, à contre-emploi, elle joue la dissemblance, la disjonction, la distinction du détail abyssal comme un dessin de Hopkins, redifférenciant, réidiomatisant, rouvrant l'abîme à chaque pas, réenfouissant le tout dans la partie, selon la formule baudelairienne de l'infini diminutif. Pour elle, l'infime est infini, ou encore, afin de faire servir les termes de Rimbaud, cherchant la formule pour que le lieu continue d'avoir lieu, elle tient à la différence. Bonne année.